Je vous avais promis de continuer sur les actes des fils des prophètes. Donc, ce sera le troisième volet que je vous invite à prendre dans 2 Rois, chapitre 4, verset 38. 2 Rois, chapitre 4, verset 38. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes était assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine !» Il en jeta dans le pot et dit, « Sers à ces gens et qu'ils mangent !» Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Jusque-là, la lecture. Seigneur, encore une fois, nous voulons nous mettre devant toi, devant ta parole, pour vraiment que tu nous enseignes. Seigneur, encore une fois, nous attendons ton message, que tu parles. Seigneur, parle-nous. Parle-moi, nous voulons t'écouter, Seigneur. Qu'à toi revienne toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Petit rappel, nous avons vu que les communautés des fils des prophètes étaient des partisans de la religion de Yahvé, opposés à l'époque à la religion opposée qui était l'adoration du dieu Baal. Nous avons aussi constaté qu'ils avaient des maisons, que certains étaient mariés et avaient des enfants. Ils pouvaient aussi travailler à la construction d'un local ensemble et ils se tenaient assis ensemble pour prendre connaissance de l'enseignement du prophète, en l'occurrence ici, le prophète Élisée. La lecture d'aujourd'hui, nous voyons qu'ils vont prendre un repas en commun à l'instigation du prophète, Élisée lui-même, une sorte d'agape. Mais avant de passer au repas, nous intéresserons au contexte. Il nous est dit que Élisée revint à Gilgal, une ville. Quelle est cette ville? Et on remonte un petit peu plus loin, un petit rappel, le peuple d'Israël quitte l'Égypte où ils sont restés, combien de temps? Ils sont restés 400 ans en esclavage. Ils traversent le désert et ils sont restés 40 ans dans le désert. Et ils arrivent aux portes du pays promis. Et ils arrivent à Sittim, où ils vont traverser le Jourdain à pied sec. Vous pouvez retrouver tout ça dans Josué, chapitre 3. Et la suite, je vais laisser la Bible parler. Josué 4, verset 19. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz, « Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés. » Comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant vous jusqu'à ce que vous soyez passés. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et ainsi vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Gilgal est situé entre le Jourdain et Jéricho, et ça devient le campement principal dans l'arrivée des Israélites, et fut le théâtre d'une série d'événements assez nombreux. Je vous fais un petit résumé, pour aller tout voir dans Josué, évidemment, mais un petit résumé. Donc, Gilgal a vu la circoncision de la génération qui a grandi dans le désert, la première Pâque en Canaan y fut célébrée, l'arrêt de la manne, donc ils sont, le désert est fini, ils arrivent à Gilgal, et la manne s'arrête, celle qui nourrissait le peuple. C'est aussi à Gilgal qu'on a préparé l'armée pour prendre Jéricho, et c'est là aussi que commence la répartition des terres du pays, entre autres, entre les différentes tribus. Donc, ville assez importante. Pour une définition, j'ai été voir dans le grand dictionnaire de la Bible, Gilgal pourrait signifier cercle de pierre, de racine hébraïque Gaalan, qui qui veut dire rouler. Et c'est au moment de la circoncision du peuple hébreu que Dieu a utilisé ce nom par l'intermédiaire de Josué pour rappeler à Israël sa libération. Et dans Josué 5, verset 9, voilà ce qu'il dit. « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de toi l'opprobre d'Israël. » Il y a toujours parfois un petit jeu de mots comme ça en hébreu. C'est bien dommage qu'on ne connaisse pas l'hébreu, mais c'est une finesse encore plus grande qui ne passe pas, hélas, en français. Donc Gilgal devient donc à la fois un rappel de la délivrance divine, un signe de la victoire présente et une promesse de l'héritage à venir. Mais c'est pas tout. Je laisse encore une fois la Bible parler dans Josué chapitre 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit de même. Gilgal est dans cette partie sainte. Gilgal est une ville dite sainte. Et c'est là que revient Élisée, nous dit le texte. C'est là que réside aussi une communauté des fils des prophètes en terre désignée par Dieu sainte. Mais, comme les deux dernières fois, pas de bol, il y a une catastrophe. Il y a une famine dans le pays. C'est la crise et tous les prix augmentent. Mais enfin, avec quand même 85 versets qui en parlent dans la Bible, d'Abraham en Genèse 12, 10 et jusqu'à Jésus qu'il utilise dans la parabole dite du fils prodigue dans Luc 15, la famine fait partie intégrante de la Bible. Jusque dans l'Apocalypse, elle est présentée comme un fléau à côté de la mort et du deuil. C'est donc pas parce que nous sommes en Terre Sainte, je vous signale que Gilgal, Terre Sainte, c'est pas parce que nous sommes en Terre Sainte qu'on sera épargné de la famine. Ce n'est pas non plus parce que je suis chrétien, faisant partie d'une église qui suit fidèlement la parole de Dieu, que je passerai à côté des crises nationales ou même mondiales. Daniel l'a bien dit, ce n'est pas une vie toute rose, il y a de temps en temps des épines. Mais je sais que mon Seigneur les traversera avec moi. Et j'aime à dire que la pluie et le beau temps est pour tout le monde, mais à nous de discerner l'arc-en-ciel qui est au milieu de l'orage grondant. Le Seigneur nous accompagnera dans nos crises ou dans nos famines. Qui dit famine, dit débrouille pour manger. Pas le choix. Alors, une bonne soupe, un bon potage fera l'affaire, quelques légumes du jardin, un peu d'eau, et l'affaire est jouée. C'était sans compter que... d'un qui fait le malin. Un des fils des prophètes qui va s'auto-proclamer botaniste et chef cuistot. Pour info, un botaniste est un scientifique de haut niveau qui étudie les plantes et qui les connaît. Sauf que notre botaniste autoproclamé, il ne connaît pas. Verset 39, l'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes, il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein sous vêtements. Donc il n'a même pas pris un petit peu pour un... Non, il a pris un paquet. Quand il rentra, il coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Le verset est sans ambiguïté. Car on ne les connaissait pas. J'étais voir le texte original, parce que je me dis quand même, c'est quand même bizarre que cette phrase arrive comme ça. Elle est bien dedans. Hein. On ne les connaissait pas. Les fils des prophètes, botanistes, cuistots, autoproclamés, coupent en morceaux pour mieux faire passer sa récolte dans la marmite de bouillon. Alors je me dis, soit il l'a fait en cachette, soit il l'a fait devant le serviteur, parce que c'est quand même lui qui a préparé le potage, et qui n'a rien vu, ou qui n'a rien dit, ou alors il l'a fait devant tout le monde, et personne n'a réagi. Personne n'a rien dit. Peut-être parce que personne non plus ne connaissait pas ces légumes sauvages, ou qu'ils sont dans l'indifférence, ou dans la toute confiance, mal placés peut-être, mais aujourd'hui, qu'en est-il? Nous nous souvenons que nous sommes dans une église comparable à ces communautés des fils des prophètes. Nous aussi, nous faisons des agapes et un repas ensemble et un botaniste en herbe cuistot autoproclamé, ben, va se repérer. Enfin, du moins, j'espère. Mais je voudrais quand même davantage me tourner vers notre nourriture spirituelle. Combien de conseillers, d'enseignants, de pasteurs autoproclamés sont encore en activité ou encore d'autres sectes qui parlent avec le même bouillon que nous. En disant bouillon, je parle de notre nourriture de base, notre Bible. Il y a des sectes qui utilisent la Bible en la transformant. Et dans notre bouillon, quelle nourriture serve-t-il diluée et bien coupée en petits morceaux pour qu'elle passe mieux à notre regard? Que ce soit discret, qu'on ne s'en rende pas compte, peut-être. Peut-être sommes-nous dans l'indifférence ou dans l'ignorance, ou dans la confiance totale, mal placée. Les paroles du chant « Pardon » de Exo relèvent le silence de l'Église. L'Église se tait, ou ne dit rien, ou ne voit rien, ou ne veut rien savoir. Et Dieu, par l'intermédiaire du prophète Osée, chapitre 4, verset 6, nous dit « Mon peuple est détruit ». Parce qu'il lui manque la connaissance. L'Église se détruit parce qu'il n'y a pas de connaissance. Et la nouvelle français courant qu'on utilise de plus en plus maintenant dit « Déjà mon peuple périt petit à petit faute de me reconnaître. » Petit à petit, on ne s'en rend pas compte. Et le texte original dit « Mon peuple est détruit et réduit au silence. » Réduit au silence par faute de connaissance. Parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Quelle est notre responsabilité dans l'état de notre potage? Quel est notre consentement dans la qualité de l'enseignement que transmet notre Église locale et même nationale? Où en sommes-nous? Je vous laisse la question. Maintenant, examinons un peu plus près ces légumes. Le seul détail qu'on a sur le potage, c'est ces légumes sauvages. Il nous est parlé de deux sortes de plantes, la vigne et la coloquinte. Dans certaines versions de la Bible, coloquinte est désignée comme une sorte de courge. Et de plus, le sens du verset fait penser qu'elle a été cueillie sur la vigne. Oui, ça fait partie des cucurbitacées. En fait, on en trouve dans les magasins, c'est une espèce de, comment je vais dire, de petits potirons comme ça, un peu comme une orange, qui sert de décoration. Parce que c'est très mauvais. En fait, cette espèce de courge a été cueillie, et on a l'impression que dans nos versets, ça a été cueilli sur la vigne. Et je vous cite la Nouvelle Français Courant, qui est de plus, comme je disais, de plus en plus utilisée. Verset 39, un membre du groupe s'en alla dans les champs pour chercher des herbes. Il trouva une sorte de vigne sauvage sur laquelle il cueillit les fruits ressemblant à de petites courges. Donc ça, c'est la nouvelle version Français Courant. Donc on a l'impression qu'on les cueille sur la vigne, quoi. Un détail, il nous a quand même dit que la vigne est sauvage, détail qui a quand même son importance, parce que généralement, qu'est-ce qu'on connaît, nous, de la vigne? Elle est alignée, entretenue, taillée, elle porte de bons fruits et donne du... Mais directement, quand on pense à la vigne, d'emblée, on pense Jean 14, « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. » Verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. La vigne qui n'a pas de vigneron devient sauvage. Elle rampe, comme si elle n'avait pas de cèpe. Elle n'a pas de corps. Elle rampe. Si elle n'est pas taillée, elle est par terre. Et elle, de plus, elle ne porte pas de fruits. Pour ce qui est de la coloquinte, qui en même temps, je vous donne une explication tirée de l'encyclopédie biblique d'Alfred Kuhn. J'ai rien pondu, j'ai été lire et j'ai retapé. Je vous lis les coloquintes, entre parenthèses, Citrullus colocintis, ça c'est dit, pousse dans la vallée du Jourdain. On en trouve aussi en Afrique et en Inde, il n'y a pas que là-bas. Leurs tiges s'allongent sur le sol et donnent des fruits de la grosseur d'une pomme. Ces fruits contiennent un poison mortel qui, à faible dose, est utilisé contre les maux d'estomac. Les pépins sont parfois utilisés par les bédouins à la place du pain dans le temps de grandes disettes, et les coloquintes ont un effet laxatif très puissant, qui peut être fatal si elles sont ingurgitées en quantité. Cette plante a des sarments et des feuilles semblables à celles du concombre de nos jardins. Nous pouvons mieux comprendre qu'à l'état sauvage, la vigne et la coloquinte s'entremêlent. La vigne est entremêlée avec une plante toxique. Donc on a vraiment l'impression qu'on va chercher les fruits sur la vigne. J'ai déjà cité le texte, Jésus nous compare à ces sarments. Vous voyez peut-être un peu où je veux en venir. Si on n'est pas entretenu, une vigne sauvage n'est que des sarments. Sans le cep qui est Jésus et le vigneron qui est le Père Céleste, l'homme et la femme rompent. Il en est un autre qui, après avoir tenté Adam et Ève dans le jardin d'Éden, s'est trouvé à ramper. La vigne rampante se fait envahir par la coloquinte, une plante toxique, et les fruits seront mauvais. Mais le pire, c'est que ces fruits se retrouvent dans la marmite. J'ai nommé l'Église. À cause de l'ignorance, de la méconnaissance, de l'indifférence, peut-être de la pleine confiance non vérifiée. Et tout cela à cause d'une seule personne autoproclamée. Le tout mélangé à la nourriture du peuple de Dieu. Aujourd'hui, on fait l'amalgame entre le bon et le mauvais, et on mélange tout. Et on touille, et on touille. Et ce bon, on accepte ça, on accepte ci, et on touille la soupe. Heureusement, les fils de prophètes, ils ne sont pas dupes. Ayant goûté, ils se sont rendus vite compte que s'ils continuaient à manger, c'était la mort qui les attendait. Alors de nouveau, ils crient à Dieu, à l'homme de Dieu. Il prévient l'autorité, et l'autorité, heureusement, réagit. Verset 40, on servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu », et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine, il en jeta dans le pot et dit, serre à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Quand on pense qu'il n'y a plus rien à faire, Dieu a encore une solution. Alors je me suis quand même posé la question, comment la simple farine peut-elle assainir un potage mauvais? Avec le peu de connaissances culinaires que j'ai, la farine pour moi est utilisée comme liant de sauce. Ça sert aussi pour les pâtes à gâteau et de base du pain. Mais jamais comme purificateur. Donc il y a miracle. Dieu agit en miracle. Et que pouvons-nous donc tirer comme conclusion de ce miracle alimentaire? Primo, la famine dans la Bible est une des conséquences de la désobéissance de l'homme et est souvent utilisée par Dieu pour ramener son peuple. Dieu affame son peuple pour qu'il revienne à lui. Notre nourriture est la parole de Dieu. Parfois, on est affamé de la parole de Dieu. Je ne sais pas si ça vous arrive. On a besoin de retour. Deuxièmement, ce n'est pas parce que nous sommes dans une église que nous ne serons pas touchés par la famine, par la crise, quelle qu'elle soit. Troisièmement, veillons sur notre nourriture spirituelle en vérifiant, Bible en main, si les enseignements que l'on nous fait accepter sont conformes à la parole de Dieu. Combien de fois j'ai dit, allez vérifier ce que je dis. Soyez des bons Béréens, allez vérifier. Quatrièmement, ne cessons jamais d'augmenter notre connaissance de notre Dieu et de sa parole pour que nous puissions nous défendre devant ces autoproclamés. Et cinquièmement, laissons-nous émonder, comme la vigne entre les mains du divin vigneron. Et au final, s'il arrivait que le mal soit entré dans le pot et risque d'entraîner la mort, l'indifférence, et l'indifférence, la suffisance, la pleine confiance mal placée entre dans l'Église et risque de nous détruire spirituellement, soyons assez humbles pour revenir à Dieu. Il a une solution. Et cette solution, oui, il l'a déjà donnée. Il l'a donnée il y a 2000 ans, et c'est son propre fils. Comme cette farine pure, blanche, issue de la terre, et jetée dans la marmite, dans le pontage contaminé, Jésus, homme, issu du ciel, fut envoyé sur la terre corrompue. C'est lui, en fait, le vrai miracle. C'est pas la farine, c'est Jésus-Christ, le vrai miracle. Jean 6, 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Que nous puissions, par ces illustrations des fils des prophètes, nous rendre compte que, quelle que soit la situation, Christ est l'unique. Dans le récit de la perte du fer de hache, volet 1, à réécouter sur le site, c'est un emprunt qui pose problème et nous sommes nous-mêmes redevables à Dieu. L'œuvre de Christ à la croix nous a rachetés. Dans le récit de l'huile de la veuve, deuxième volet, Dieu répond au-delà de nos espérances. Christ est venu afin que nous ayons la vie, mais la vie éternelle surtout. Et dans notre événement de ce jour, même si nous nous sommes laissés corrompre par une mauvaise nourriture, Christ peut nous purifier. Mais en toute chose, nous avons une démarche à faire. Revenir au pied du Maître. Nous remettre en question. Et s'il le faut, crier à Dieu qui fait grâce. Amen. Seigneur, merci parce que devant ce texte, tu nous parles. Tu nous parles de Christ. Même si nous sommes 1800 ans avant sa venue, Christ était déjà présent. Seigneur, que nous puissions avoir les yeux uniquement fixés sur toi. Car c'est toi qui es le miracle, c'est toi qui es la solution. Merci de tout cœur. Amen.